Personne n'est à l'abri des arnaques sur Internet, à moins bien sûr de ne pas avoir Internet. Comment se prémunir de ces arnaques? De quoi faut-il se méfier? Avec vos questions, vos témoignages, il n'y a pas de téléphone surtaxé à France Inter, au 01 45 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. Fut un temps où le travail à McDonald's était un symbole, symbole de travail jetable, on parlait d'ailleurs de McJob. Eh bien, ces emplois sous-payés sont au cœur d'un vrai débat de société aux États-Unis, une quasi-révolution puisqu'ils sont en passe d'être augmentés de 10%. Alors, vous allez me dire 10% de pas beaucoup, ça fait pas beaucoup, et en effet, cela signifie que les employés de McDo vont voir leur salaire passer de 9 à 10 dollars de l'heure, soit de 8 à 9 euros de l'heure environ. C'est évidemment insuffisant pour vivre de manière décente, mais le symbole est ailleurs. Pour la première fois, les très petits salaires connaissent des augmentations aux États-Unis. C'est le cas chez McDo, ce fut le cas également dans les supermarchés Walmart, mondialement connus pour leur exploitation de l'homme salarié par l'homme actionnaire. Pourquoi cette augmentation des bas salaires? Parce que la reprise économique oblige les entreprises à s'aligner si elles veulent embaucher, mais aussi parce que le regard porté sur les bas salaires est en train d'évoluer. Parce que l'on s'est rendu compte d'une chose folle, figurez-vous que les pauvres ne consomment pas assez. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont pauvres. Les augmenter, c'est leur donner la possibilité d'alimenter l'économie par leurs dépenses. Avouez que tout cela mériterait bien un prix Nobel d'économie. À coup d'augmentation de salaire de 1 dollar par heure, on finira par comprendre que pour en finir avec la pauvreté, il suffit de transformer les pauvres en bourgeois. Ça se passe comme ça chez McDonald's, normal. Hamburger, ça vient de hambourgeois.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Les nouvelles arnaques sur Internet, nous sommes pour en parler tout d'abord en ligne avec le capitaine Karine Béguin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du département Investigation Internet du service central de renseignement criminel et vous nous direz quelles sont les ruses qu'utilisent aujourd'hui les arnaqueurs sur Internet. Cédric Gourbeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un multi-entrepreneur du net et vous venez de publier Guide anti-arnaque, acheter et vendre en toute tranquillité sur Internet aux éditions Hérault. Et puis enfin, Camilla Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service juridique de l'association Aven Europe, l'association des victimes et usurpées d'escroqueries à la nigériane. Alors, il faut expliquer ce que sont les escroqueries à la nigériane. Les escroqueries à la nigériane, c'est spam, autrement dit, ces messages internet que l'on reçoit même quand on n'a rien demandé et qui vous proposent de gagner une somme d'argent extrêmement importante parce que vous avez hérité de cette somme parce que quelqu'un de gravement malade veut vous la transmettre. Et à chaque fois qu'on reçoit l'un de ces mails, on se dit, Camilla Parizeau, quand même, il faut être véritablement crédule pour tomber dans le panneau. Et vous êtes là pour nous dire que des gens comme vous et moi tombent dans le panneau et finalement sont victimes de ces escrocs.
Tout à fait, oui. Mais enfin, ce n'est pas que les spams. Hein. L'escroquerie à la nigériane, c'est aussi plein d'autres types d'escroqueries avec des montages très très bien faits. Et qui vont, je veux dire, s'enchaîner les unes derrière les autres. Et donc, il va falloir être très vigilant sur beaucoup de choses.
Donnez-nous un exemple de ces escroqueries à la nigériane, Camilla Parizeau.
Alors, en premier lieu, vous avez ce que vous venez de parler, c'est-à-dire le phishing, ce que nous, on appelle le phishing. Ensuite, vous allez avoir...
Phishing, ça veut dire qu'il y a un site internet auquel vous connectez. Vous pensez que ce site internet est le site internet du groupe EDF, de la BNP,
voilà,
de la Société Générale.
Envoyer un mail en vous disant, par exemple, que vous ne pouvez plus, au niveau EDF, il y a un problème avec votre compte, donc il va falloir remettre absolument tout ça à jour. Donc vous allez cliquer sur le lien EDF, puisque c'est très bien fait, hein, c'est le même logo, tout est clean. Sauf que ce lien vous envoie, bien sûr, sur un site écran. Et là, on va vous demander vos coordonnées bancaires, etc., pour tout remettre à jour. Et bingo, en fait, vous êtes sur un site d'escroc qui récupère vos données bancaires.
Et la catastrophe, Cédric Gourbeau, c'est que certains de ces sites qui sont de mieux en mieux imités, puisqu'au début, les sites de phishing, ces sites qui imitaient des sites officiels, possédaient une faute d'orthographe, étaient mal traduits, aujourd'hui, ils sont de mieux en mieux faits et il suffit de cliquer pour entrer dans l'enfer.
Il suffit de cliquer sur le mail que vous recevez, qui est exactement identique à celui que vous recevriez de votre banque ou de n'importe quel organisme, EDF ou autre. Et à partir de là, vous rentrez effectivement dans l'enfer parce que vous suivez le process, vous êtes dans un process qui est complètement cadré, qui vous semble normal, et avec un facteur qui est d'autant plus important que vous êtes en général à votre domicile ou à votre bureau, donc vous êtes dans une zone où vous vous sentez protégé et où du coup un certain nombre de barrières, vous ne faites pas attention à un certain nombre de barrières. Et là vous rentrez dans le cauchemar, c'est-à-dire qu'on peut vous piquer votre adresse mail, rentrer dans votre adresse mail et à partir de là avoir accès à tous vos amis, tous vos contacts, tous vos mots de passe, parce qu'en général dans votre boîte mail vous avez tous vos mots de passe. Et donc à partir de là on peut... Le but quand même au départ d'une arnaque est deux choses, soit prendre vos coordonnées bancaires ou de cartes, soit vous prendre de l'argent, la finalité étant la même en finale.
Mais alors ça signifie qu'il suffit de cliquer véritablement, on n'a pas besoin de renseigner, puisque dans les arnaques les plus rudimentaires, il était indiqué, donc donner votre adresse email, donner votre mot de passe, et donc là on se dit évidemment qu'il y a anguille sous roche, voire baleine sous roche, néanmoins aujourd'hui il n'est pas utile d'avoir à faire ça, il suffit véritablement de cliquer pour que ces escrocs s'emparent d'un certain nombre d'informations confidentielles sur votre ordinateur.
À partir du moment où vous cliquez sur un lien, vous donnez l'autorisation, en tous les cas au site vers lequel vous allez vous diriger, de faire passer un certain nombre d'informations sur votre ordinateur. En l'occurrence, ce qu'on appelle entre autres des cookies, mais aussi des spyware, si le site qui est derrière est malhonnête. Donc, ils peuvent vous déposer des spyware et surveiller ensuite toute l'activité qu'il se passe sur votre ordinateur.
Et donc, on se dit, lorsqu'on est par exemple abonné à l'électricité sur EDF, ce qui arrive à des gens bien, à des gens comme vous et moi, qu'il est parfois difficile de refuser de se connecter sur un mail avec marqué EDF. Alors comment faire ? Parce qu'il y a bien un moment où on risque de tomber dans le panneau, Cédric Gourbeau.
Donc la règle de base, c'est ne jamais cliquer sur un lien qui se trouve dans un mail que l'on vous envoie. Qu'il provienne de qui que ce soit, un ami... Jamais cliquer sur un lien dans un mail. Vous allez directement sur le site en question, que ce soit EDF ou un autre pour l'électricité, et là ensuite vous rentrez vos données à partir du site de l'adresse email que vous avez saisie, pardon, dans la barre d'URL pour rentrer sur le site directement. Je ne sais pas si je suis très clair.
Un peu confus. Vous êtes clair, ça signifie en fait qu'il ne faut pas cliquer sur le mail, mais qu'il faut reprendre le processus depuis le départ dans le navigateur,
exactement.
Donc se connecter sur EDF. Capitaine Béguin, on se dit que toutes ces arnaques, elles laissent des traces bancaires, puisque si on me prend de l'argent sur mon compte en banque, si on prend par exemple mes coordonnées bancaires, tout ceci est traçable, alors que fait la police ?
Tout est logué. En fait, sur Internet, dès lors que vous connectez sur Internet, toutes vos connexions sont loguées. Lorsque quelqu'un va cliquer sur un mail piégé et va rentrer ses coordonnées bancaires sur le site soi-disant de son agence bancaire, la personne qui va récupérer les éléments va pouvoir après se connecter sur ce compte bancaire et passer des virements ou utiliser ses différents numéros pour acheter sur Internet tel ou tel produit. Et effectivement, dès lors que la personne se connecte sur le compte de la victime, toutes les informations sont loguées, c'est-à-dire information, quand je parle d'information, c'est son adresse IP. Donc son adresse IP est loguée, et donc grâce à ça, nous pouvons éventuellement remonter sur le fournisseur d'accès qui a mis en place cette adresse IP pour quelqu'un qui a un abonnement chez son fournisseur d'accès. Le souci que l'on peut rencontrer, si l'adresse IP est française, les gendarmes et les policiers peuvent investiguer puisque nous sommes compétents à la matière. Si ensuite les adresses IP sont étrangères, il faut voir avec le pays qui gère ces adresses IP pour obtenir plus d'informations, et tout dépend aussi du cadre judiciaire dans lequel on travaille.
Alors là, je vais faire un peu de traduction, capitaine, parce que tout le monde n'est pas aussi averti avec Internet que vous l'êtes. Donc l'adresse IP, c'est en réalité l'adresse que vous obtenez, sans le savoir la plupart du temps évidemment, lorsque vous connectez sur Internet, c'est une suite de chiffres.
Oui,
alors on peut la récupérer lorsqu'on est sur sa messagerie, mais enfin c'est quand même pas complètement évident. Et alors à partir de là, une fois que vous avez récupéré cette suite de chiffres, vous pouvez aller sur certains sites spécialisés qui vous permettent de savoir si votre adresse IP est une adresse française ou bien une adresse étrangère, n'est-ce pas ?
Oui, Ce sont des sites qui sont ouverts à tout le monde. Hein. Vous demandez comment connaître le fournisseur d'accès d'une adresse IP sur une barre de recherche d'un moteur de recherche et vous avez différents sites qui vous proposent de mettre cette adresse IP et le site va vous la convertir en disant tel fournisseur d'accès propose cette adresse IP. Donc vous connaissez tout de suite si c'est un fournisseur d'accès français ou étranger.
On va continuer à évoquer ces questions d'arnaque, ces arnaqueurs qui n'hésitent pas à vous sucer le sang comme dans Vampire Weekend, car il ne s'arrête même pas la nuit. Vampire Weekend, White Sky, un disque choisi par Stéphanie Texier et Thierry Dupin.
Service public, 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Ancient business, a modern piece of glasswork. Down on the corner that you walk each day in passing. The elderly sales clerk won't ask with suspicion. The whole of motor corporation's giving its permission.
Bonjour, mon nom est Stéphane. Je vais vous montrer une technique pour gagner près de 10 000 euros par seconde sans bouger de chez vous, sans même sortir de votre lit, sans même vous réveiller, sans même en avoir conscience. Cette technique est basée sur une méthode qu'utilisent les traders américains, aussi appelée American Traders. Cette technique fonctionne en 4 étapes vraiment très simples. Easy Tape. Connectez-vous à notre site internet énorme arnaque on se fout littéralement de votre gueule.argent. Entrez vos coordonnées bancaires. Ensuite, c'est tout. Voilà. Attendez. Faites-vous un café. Mettez-vous à l'aise.
Service public sur France Inter. Parfois, les choses ne se passent pas de manière aussi simple, mais enfin, ça y ressemble. Et c'est la raison pour laquelle nous explorons les nouvelles arnaques sur Internet ce matin en compagnie de Cédric Gourbeau, qui vient de publier Guide anti-arnaque, acheter et vendre en toute tranquillité sur Internet. Camilla Parisot, responsable du service juridique de l'association Aven Europe, association des victimes et usurpées d'escroqueries à la nigériane, ces escroqueries où vous êtes victime d'un spam, d'une campagne donc de faux mail envoyé sur Internet alors que vous n'avez rien demandé et le capitaine Karine Béguin, qui est chef du département investigation Internet du service central de renseignement criminel. Nous avons une auditrice qui nous attend au standard, Martine, qui nous appelle de Lille. Bonjour Martine.
Bonjour.
Ça va Martine ?
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on vous écoute. Martine, nous attendons votre question.
Alors, bah écoutez, moi j'ai voulu partir en week-end à Londres, justement pour le week-end de Pâques, là, qui vient de passer. Mm-hmm. Et je me suis connectée sur les recommandations d'amis sur le site Airbnb en France. Mm-hmm. Donc c'est airbnb.fr. Mm-hmm. Donc j'ai suivi le processus, il faut s'enregistrer, etc. Et puis après, on a accès à des annonces de particuliers qui proposent des appartements à louer. Donc, en fonction des dates que j'ai remplies et du nombre de personnes qu'on était, je suis tombée sur un certain nombre d'annonces. Mmh. Et j'en ai trouvé une qui m'intéressait. Donc, j'ai sélectionné cette annonce. Et sur le site, on m'a dit qu'ils allaient consulter le propriétaire et que j'allais recevoir un message pour m'indiquer si c'était possible. Donc, j'ai bien reçu un message dans ma messagerie avec le logo Airbnb, la politique de sécurité, etc. Les coordonnées du propriétaire, en me disant de prendre contact avec le propriétaire pour préparer l'arrivée, le paiement, etc. Donc j'ai pris contact avec la personne qu'on m'a indiquée, j'ai échangé des mails, on a discuté de l'appartement, etc. Et puis elle m'a indiqué que tout était ok, etc. Donc j'ai reçu un deuxième mail qui me donnait les coordonnées bancaires sur lesquelles je devais faire un virement pour régler cet appartement avec une caution, tatété, etc. Donc, je suis retournée sur le site pour vérifier que ça correspondait à la politique de Airbnb, notamment sur la caution. Tout avait l'air correct, donc j'ai fait le virement et puis j'ai plus de nouvelles. Voilà, donc j'ai rappelé le site. Alors pour les joindre, c'est très compliqué, hein, il faut appeler plein de numéros avant de trouver quelqu'un au téléphone, et qui m'a dit nous on n'a aucune trace de l'opération dont vous nous parlez, vous êtes pas sur le, vous êtes fait arnaquer, c'est quelqu'un qui n'est pas sur le site. Sauf que moi j'ai eu l'annonce sur le site et j'ai eu toutes les informations par le site. Donc
Et alors aujourd'hui vous en êtes où, puisque donc vous êtes certaine hélas d'avoir été arnaquée, est-ce que vous avez porté plainte?
Alors ça s'est passé la semaine dernière, j'ai pas pu porter plainte parce que le commissariat chez moi il est ouvert 2 jours par semaine, donc j'y vais ce matin là pour porter plainte.
C'est un autre problème de service public ça.
Voilà, et j'ai envoyé un mail déjà pour qu'il bloque l'adresse sur le site pour qu'il n'y ait pas d'autres personnes que moi qui soient attrapées. Et même pour leur donner les informations concernant ce problème, ça a été compliqué. C'est-à-dire même par mail, en envoyant à l'adresse qu'ils m'ont indiqué, j'ai reçu des mails d'erreur me disant qu'ils n'avaient pas reçu mon mail signé Airbnb Service.
Alors, il y a deux personnes qui peuvent malgré tout vous renseigner. Le capitaine Béguin qui est en ligne. Capitaine, vous venez d'entendre la mésaventure de Martine. Qu'est-ce qu'elle peut faire, Martine ?
Oui, alors tout d'abord, un dépôt de plainte. Puisque sans dépôt de plainte, on considère qu'il n'y a pas de victime. Donc ce que j'ai pu comprendre, il y avait quand même victime d'une escroquerie. Donc le dépôt de plainte est essentiel. D'apporter tous les éléments qu'elle a en sa possession, donc les différents messages qui ont été transmis entre elle et la personne qui louait soi-disant un appartement sur Londres. Et ensuite, de voir aussi le numéro de compte qui lui a été donné afin qu'elle puisse effectuer le virement. Donc ces éléments sont indispensables pour le dépôt de plainte, puisque c'est grâce à ces éléments qu'on va pouvoir faire des recherches et des recoupements pour savoir si d'autres personnes ont été victimes de ces mêmes agissements.
Mais capitaine, là, on se dit qu'il s'agit d'un virement, il ne s'agit pas du tout d'une arnaque, on aura l'occasion d'en voir d'autres, où on envoie un mandat, là, lorsqu'on envoie un mandat et que la personne touche du liquide, on se dit qu'effectivement c'est compliqué de le récupérer, mais là c'est un virement, c'est donc entre deux banques, entre deux tiers de confiance, on se dit quand même que ça doit être possible d'annuler le virement.
Le problème, c'est que dès que vous ouvrez un compte auprès de certaines banques qui sont très peu regardantes, dès que le virement a été accepté par la banque du destinataire et la banque du bénéficiaire, le virement est parti, c'est impossible de l'arrêter en fait.
Cédric Gourbeau.
C'est pas tout à fait vrai. Excusez-moi de vous corriger comme ça, mais certaines banques acceptent d'aller rechercher l'argent.
Du rappel de fonds avec une plainte.
Exactement, de faire du rappel de fonds avec une plainte. Et donc il faut absolument, dès que vous avez déposé votre plainte, soit au commissariat, soit à la gendarmerie, aller auprès de votre banque, demander à ce qu'ils fassent leur possible pour rapatrier les fonds.
Normalement, la banque aurait déjà dû le faire sans le dépôt de plainte.
Oui, sauf que, est-ce que vous avez demandé, avez demandé à votre banque de le faire, madame? Première chose.
Est-ce que Martine est encore en ligne?
Je les ai appelés dès que j'ai su. Hein. Moi, ma banque, c'est AXA Bank. Je les ai appelés directement. Ils ont d'abord dit que c'était impossible, que c'est un virement est irrévocable. C'est leur vocabulaire.
C'est
j'aurais dit que je pensais que c'était quand même envisageable parce qu'il allait y avoir un dépôt de plainte. Et ils m'ont dit qu'ils allaient se renseigner. Voilà. Donc ça, ça date de jeudi soir. J'ai aucune nouvelle. On est mardi matin.
Il faut envoyer un recommandé avec accusé de réception tout de suite, ne pas attendre, éventuellement déposer. Alors non, j'allais dire déposer à votre agent que sa banque, c'est un peu difficile parce que de mémoire, c'est en ligne. Et continuer à leur faire pression, à faire pression sur eux parce qu'ils peuvent rapatrier un virement.
Voilà, bon, on espère que vous allez vous en tirer, Martine.
Merci,
nous prenons Christian qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons. Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter, Christian.
Alors moi, je voudrais vous faire part d'un problème qui concerne la procédure 3D Secure, qui est, comme vous le savez, une procédure qui permet de sécuriser les transactions sur Internet en recevant un code par SMS de sa banque.
Voilà, lorsque vous achetez, par exemple, des billets de train sur Internet ou ce genre de produits dématérialisés, notamment.
Voilà. Alors, les banques font grand cas de ce procédé qui serait infaillible. Le problème, c'est que des petits malins, des petits génies de l'informatique ou des petits truands, je ne sais pas, sans doute les mêmes, arrivent à casser ce code extrêmement facilement. Moi, je suis commerçant, je vends en ligne et je m'aperçois que de plus en plus souvent, nous avons des procédures qui sont éminemment suspectes, avec des numéros IP et des nationalités de cartes qui ne correspondent pas, des adresses de livraison fantaisistes, enfin, etc. Donc, on les détecte aujourd'hui grâce à l'expérience, ces tentatives de fraude.
Donnez-nous un exemple, Christian.
Quand vous avez une commande, allez, on va faire dans les idées reçues sociales, mais enfin, qui vient d'une banlieue où vous savez que les gens ne brillent pas par leur richesse, et quand vous commandez des produits bling-bling, moi je vends du cognac, des bouteilles à plus de 1000 euros le morceau, et que vous avez...
On peut boire du cognac en banlieue.
Voilà. On peut boire du cognac en banlieue, évidemment. Mais quand vous avez une carte qui paye, quand la carte est de Hong Kong et que l'adresse IB est slovène...
Mais là, ça devient plus compliqué comme mélanger. D'ailleurs, il faut éviter les mélanges, on le sait, Christian.
Ça devient suspect. Oui, je sais que dès qu'on parle d'alcool, c'est la gaudriole. Mais enfin, en l'occurrence, c'est extrêmement sérieux. Et en l'occurrence, quand je téléphone à e-transaction, c'est-à-dire la plateforme interbancaire, on me dit « Oui, monsieur, ça sent l'arnaque à plein nez, mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Vous êtes garanti. » Donc les banques visiblement admettent qu'il y a un taux de fraude qui est de plus en plus important. Il suffit de lire les rapports parlementaires pour s'en apercevoir. Ça grimpe de 15 à 20% par an. Quant aux autorités qui devraient poursuivre, moi il m'est arrivé à plusieurs reprises de téléphoner à la gendarmerie, au service spécialisé, au GIRS, qui sont des juridictions régionales spécialisées pour la traque de ce type de fraude. Et quand je leur dis, si vous allez à telle adresse, vous pouvez faire un joli flag, qui est le Graal de tout gendarme, eh bien, il n'y a jamais personne, ou alors la 4L est en panne. Et ça, c'est aussi un petit problème. Parce qu'il suffit
Des 4L, Christian,
oui,
maintenant, quand même.
Je sais, oui. Maintenant, ils sont passés à des engins extrêmement. Enfin, il n'empêche qu'il n'y a encore personne pour y aller, quoi.
Ben, on va poser la question tout de suite au capitaine Béguin qui est en ligne. Est-ce que vous avez eu vent, capitaine Béguin, d'arnaque de ce type lorsqu'on vous appelle en vous disant voilà, j'ai un drôle de mélange, une carte slovène, une adresse à Hong Kong, le tout à livrer en France? Est-ce que ça ne vous alerte pas?
Si, si, tout à fait. Mais ça nous alerte, enfin nous, ça nous alerte, mais les commerçants, comme disait monsieur, maintenant ont des moyens, ils ont mis en place des moyens pour détecter ce genre de fraude. Effectivement, dès lors qu'on a une carte bancaire étrangère, une adresse IP qui ne correspond pas non plus au pays de la carte et une adresse de livraison en France, beaucoup de commerçants n'acceptent pas la transaction. Ensuite, pour la problématique rencontrée par ce monsieur, vous pouvez peut-être lui laisser mes coordonnées et qu'il m'appelle après l'émission pour voir un peu ce qu'on peut faire.
Viendrait avec votre 4L?
J'ai plus de 4L depuis très longtemps.
Ben vous avez tort, parce que c'était une bonne voiture, mon capitaine. Christian Gourbeau, vous avez une solution pour lutter contre ces fraudes à la carte bleue. Il y a une carte qui devrait notamment offrir une parade.
Alors, il y a une carte qui... Vous savez qu'en France, on a deux industriels de renom dans la carte à puce, dont un qui est la société Oberture Technologique, qui sort une carte qui n'est pas encore, qui est en cours de commercialisation auprès des banques, qui a un numéro, vous savez, le petit numéro qu'on a au dos avec les trois chiffres. Et ils ont mis un système qui... Le cryptogramme qui est au dos, voilà. Et donc ce cryptogramme va changer toutes les 5, 10, 15, 30 minutes, une question de programmation, ce qui fait que vous pourrez le donner sans problème et vous n'aurez plus d'utilisation frauduleuse de la carte par derrière. Je voulais juste rajouter une chose, excusez-moi, par rapport à la gendarmerie, ou la police d'ailleurs, il y a un problème au niveau des plaintes qui sont déposées. C'est-à-dire que quand le montant est inférieur, on va dire de l'ordre de 1500 euros, en général, le procureur de la République décide de ne pas poursuivre. Pour des raisons de coût, parce que les coûts de procédure sont très élevés. Et donc, quand vous avez des petits préjudices, à moins que ce soit des arnaques...
Moi, j'ai des arnaques à 250 000 euros, avec des complices reconnus et des plaintes nominatives contre le complice en France, classées par les procureurs, monsieur.
Voilà, donc ce que je disais, il y a un problème au niveau des procureurs de la République et derrière, oui. et des poursuites qui sont faites.
Et la lutte contre les gentlemen cambrioleurs, Jacques Dutronc. Et tout de suite après, on vous présente un autre type d'arnaque. On se dit que les gens sont souvent très crédules et pourtant, les arnaqueurs à l'amour, ça existe et ça peut faire de nombreux dégâts.
C'est le plus grand des voleurs. Mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman quand il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de la crise à la danse, à l'épouse la meilleure, gentleman quand
service public sur France Inter. Il est question des arnaques sur Internet. Il y a des arnaques et puis il y a des arnaqueurs, autrement dit des individus qui utilisent les sentiments d'autrui pour délester autrui. Et ces gens-là font beaucoup de victimes. Par exemple, Sylvie, une femme de 47 ans, un jour, Sylvie a décidé de s'inscrire sur le site de rencontre Adopte un mec. Un homme, Marco, a engagé la discussion avec elle et ces conversations vont vite commencer à coûter cher. À Sylvie, 7000 euros en 2 semaines. Elle a raconté sa mésaventure au micro de Raphaël Mantoux.
Tu me donnes joie et amour, plus de l'argent contre encore waouh. Je te jure, je ne sais même pas comment encore te remercier. Alors moi, je lui réponds juste avec de l'amour et de la sincérité, en plus de la gentillesse, mon cœur. Et lui, j'ai les larmes, chérie, je devrais être avec toi, je te jure, je flippe pour demain. Comment je vais faire avec les comptes? Il faut 1 400 € pour gagner le contrat. Moi, je lui réponds « ouais », mais là, je suis totalement impuissante, mon cœur. « Oui, je sais, mon cœur. Dis-moi, demain, il faut que tu m'envoies 600. Je sais, c'est pas facile, mais fais le possible si ton salaire passe. Ben, » je me suis mise sur un réseau social pour refaire ma vie sentimentale, Adopte un mec. Et dessus, je me suis fait embobiner par un usurpateur d'identité. Il avait pris un beau profil d'un mannequin italien, de Marco Marius. Là, la photo du pauvre usurpé. C'est les photos que j'ai trouvées sur le site Adopte un mec. Donc, quand on voit ce genre de photos, n'importe quelle fille, je pense, craquerait. Un bel homme, avec qui n'importe quelle femme voudrait faire sa vie. Un bel Italien, voilà. Bah, là, on le voit sortir d'un saut de parachute, là, faire du ski, là, faire de la plongée. Je parlais en fait avec un Africain. De là, bah, il s'est engendré beaucoup de problèmes autres que beaucoup de demandes financières. Donc je devais faire des versements avec Western Union. Je me suis un petit peu laissée avoir.
Et vous parliez de quoi?
De tout, de rien, de l'avenir, voilà.
Et il vous a dit quoi sur lui alors?
Qu'il avait une crise à Société de Coton et que c'est pour ça qu'il était parti au Mali. Il était divorcé, qu'il avait un fils. Puis en moins de 15 jours, il a commencé à demander de l'argent. Et puis après, il m'a envoyé un chèque de 8 600 € du Trésor public. De là, bah, j'ai eu des problèmes parce que quelques jours après, ils se sont aperçus que c'était un chèque falsifié. J'avais envoyé au total, il a reçu de ma part plus de 7 500 €. Depuis le mois de juillet, il m'avait demandé 400 € pour sauver un enfant, pour payer l'hôpital, parce qu'il avait chuté un enfant. Après, c'est pour le nourrir.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté, au départ, de lui donner de l'argent?
Bah, le fait de payer l'hôpital pour un enfant, ça m'a touchée. Puis bon, c'était une période où j'étais pas bien dans ma tête, certainement, ou sentimentalement. On est face comme à un gourou. 400 €.
Donc vous faisiez des transferts de fonds au Mali, à un homme qui s'appelle Sekou Dembélé.
Voilà.
Ça vous a pas mis la puce à l'oreille?
Non. Alors il m'avait expliqué que c'était chez qui il habitait, le monsieur qui le logeait.
Donc il vous demandait des sommes comme ça,
voilà,
régulièrement?
Là, il m'a demandé 1 900 €. C'était pour revenir, pour rentrer, pour faire une histoire.
À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème?
C'est pas moi qui m'en suis aperçue, c'est mon père et ma sœur.
Vous aviez les moyens?
Pas du tout.
Et vous gagnez combien par mois?
1 600 € maximum. Mais je n'ai même pas compté ce que je donnais. Je ne comptais pas. Il a même réussi à me faire acheter un poney pour ma fille. Donc je me retrouve avec un poney. Bon, il est mignon ce poney. Il va sur 3 ans. Et...
Ça lui a apporté quoi à lui que vous
achetez? Je ne comprends pas, toujours pas, voilà, ce que ça lui apporte. Parce qu'il coûte quand même 3 000 €. Et bah, ça fait un an que je paye le poney.
Et pourquoi est-ce qu'il vous a dit d'acheter un poney pour votre fille?
Bah, il fait, moi, de temps en temps, je fais des cadeaux comme ça, et de toute façon, le poney, quand je rentrerai, je ferai le chèque du poney, il n'y a pas de souci, donc tu peux dire oui pour le poney et tout. Donc. C'est absurde, ça c'est absurde, mais voilà.
Le reportage de Raphaël Mantoux, Camilla Parizeau, vous qui êtes responsable du service juridique de l'association Aven Europe, l'association des victimes et usurpées d'escroqueries à la nigériane, des victimes comme Sylvie, vous en rencontrez beaucoup. Celles-ci sont des gens comme vous et moi. L'un des enseignements de ce reportage, c'est qu'il ne faut pas nécessairement être particulière pour tomber dans l'un de ces pièges.
Absolument pas, non. Aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui sont des avocats. J'ai un médecin aussi d'un service assez important sur Paris.
Quel est le mécanisme qui transforme donc des personnes qui recherchent l'âme sœur en des personnes qui vont se faire arnaquer, à qui on va voler parfois des dizaines de milliers d'euros?
Alors déjà, au départ, c'est la solitude, c'est clair. Je veux dire, aujourd'hui, tous ces réseaux d'escrocs ont très bien compris que nous avions un problème de solitude dans nos pays, où beaucoup de gens sont seuls, s'ennuient, et puis rêvent, je veux dire, voilà. Donc à travers des profils-là, comme ce qui s'est passé pour Sylvie, je veux dire, ils ont un discours, tout est prêt, ils ont une grande connaissance psychologique de notre fonctionnement, Donc ils vont rentrer, ils font parler beaucoup la victime au départ sur les 15 premiers jours, ce qui leur permet de monter leur scénario. Bon là, vous voyez, tout de suite, il l'a touché à travers un enfant qui était malade. Et ça commence comme ça. Et puis, petit à petit, il vous entraîne dans une histoire. Mais il faut savoir qu'il y a un travail psychologique de fait sur ces victimes très important. On les met dans un état aussi de fatigue, parce qu'on les appelle la nuit au téléphone, on les réveille, on les laisse, on leur demande d'être sur Internet connectés assez longtemps. Donc elles dorment de moins en moins, etc. Et petit à petit, elles perdent une façon de la réalité réelle, et même s'il y a des choses qui les choquent, parce que souvent on en parle avec elles, ou avec eux, parce qu'il y a des hommes aussi qui fonctionnent dans ce genre de choses, ils vous disent, oui, c'est vrai que là, ça m'avait choqué.
Mais par exemple
Par exemple, je veux dire, quelqu'un qui ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas de billet d'avion et qu'on lui a pris son passeport et que l'ambassade refuse de refaire un passeport. On n'a jamais vu ça. Mais ça les interpelle, mais ils sont tellement dans un état et de fatigue et d'une histoire continuelle. Il les emmène d'une façon où il les harcèle à longueur de temps, par des SMS, des appels téléphoniques, Internet tout le temps. Donc ils finissent par perdre pied de la réalité.
Cédric Gourbeau, dans votre guide anti-arnaque publié aux éditions Erol, vous donnez des exemples, là aussi des exemples édifiants d'arnaqueurs, cœur comme un cœur, car ces gens-là, donc, arnaquent au sentiment.
Oui, alors il y en a de plus en plus. On vient d'avoir un témoignage qui est très, très triste et poignant. Mais je crois aussi qu'il y a un mode opératoire qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via différents réseaux, les arnaqueurs ont accès à tout un nombre et un grand nombre de données sur les personnes. Et donc, elles peuvent préparer en amont les arnaques qu'elles vont mener. Parce qu'on donne un nombre d'informations qui est inimaginable aujourd'hui.
Et puis, il y a quand même quelque chose qui doit alerter les internautes. Ce quelque chose, c'est Western Union ou tous les mécanismes de mandat qui sont des mandats que l'on peut utiliser pour envoyer de l'argent un peu n'importe où. Et là, il y a quand même un mode opératoire qui revient sans cesse, Cédric Gourbeau.
Alors, Western Union, MoneyGram, enfin, ils ne sont pas les seuls. Hein,
PCS
Mastercard beaucoup aussi. En fait, le système, le fonctionnement de ce système est qu'on envoie un virement. Et pour pouvoir toucher le virement, il ne faut pas une pièce d'identité, il faut un code. Donc à partir du moment où vous donnez ce code, n'importe qui peut retirer le montant que vous avez envoyé.
Et n'importe où.
Et n'importe où, de surcroît. C'est-à-dire que vous pouvez l'envoyer à Tombouctou et vous pouvez retirer l'argent en Sierra Leone, peu importe.
Et donc à chaque fois, les personnes disent, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un arnaqueur qui le fait donc, en singeant une relation amoureuse, là, évidemment, il retire l'argent simplement. Lorsqu'il s'agit de vendre un objet, il vous dit « donnez-moi le code et de toute façon, je ne pourrai retirer l'argent que lorsque vous aurez reçu l'objet ». En réalité, il vous ment.
Alors là, il y a un problème de fond quand même à la base. Si je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat. C'est que globalement, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit « donne-moi 1000 euros et je vais t'apporter un vase ancien du XVIIe siècle », jamais vous n'allez lui donner 1000 euros comme ça et la personne va vous ramener le vase alors que vous ne l'avez jamais rencontré. En revanche, sur Internet, ça ne vous pose aucun problème d'envoyer 1000 euros à quelqu'un que vous n'avez absolument jamais vu en supposant qu'a priori la personne sera de bonne foi et qu'elle va vous envoyer l'objet. Donc là, il y a quelque chose à la base qui ne fonctionne pas. Donc faites attention, on n'envoie pas de l'argent à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a des systèmes aujourd'hui qui permettent de le faire, comme PayPal par exemple. PayPal, depuis un mois, garantit pendant 6 mois les paiements que vous faites. Et ça, c'est important.
Christian au téléphone. Bonjour Christian.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, vous êtes juriste, je crois.
Absolument. Et j'ai souvent affaire à des personnes victimes de ce type d'escroquerie. Et je dirais un peu le contraire de ce qui a été dit par rapport à Western Union, puisqu'en effet, le principal moyen pour les victimes pour les auteurs d'escroquerie de recevoir l'argent, c'est évidemment Western Union. Et il est quand même faux de dire qu'un simple code permet de retirer l'argent qui a été envoyé. Dans la pratique, hélas, oui, mais contractuellement, non. Les personnes qui envoient un mandat à Western Union, et c'est vraiment marqué de manière claire dans le bordereau d'envoi, que la personne qui reçoit l'argent doit présenter une pièce d'identité. Or, Faut savoir qu'en Afrique, il y a un bureau Western Union tous les 15 mètres. N'importe qui peut ouvrir un bureau Western Union en Afrique. Il suffit d'aller dans la représentation locale et il y en a tous les 15 mètres. Et donc, il y a des complicités avérées dans différents pays, hein, principalement le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., qui font que les personnes qui envoient de l'argent l'oublient souvent, et moi je leur conseille de le faire, et quand elles vont jusqu'au bout, grâce à leur assistance juridique notamment, certaines, une majorité même, arrivent à rentrer dans leur... arrivent à se faire rembourser par Western Union.
Camilla Parisot.
Oui, alors là, écoutez, je suis assez étonnée, et je serais ravie que vous nous donniez le fonctionnement. Parce que nous avons, nous, fait ce type de démarche auprès de Western Union très souvent avec nos victimes. Aujourd'hui, j'ai 4800 dossiers de ce type de victimes, hein, donc en cours. Donc si on avait eu la possibilité de faire rembourser des victimes, je peux vous assurer qu'on le saurait. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Bon, il y a peut-être aussi une autre possibilité, c'est lorsque vous rencontrez quelqu'un sur Adopte un mec et que celui-ci vous explique qu'il faut lui envoyer un mandat par Western Union, bah, on peut par exemple renoncer à le faire. Une plaie d'amour n'est pas mortelle, une plaie d'argent en revanche, bah, on va en discuter après Radio Elvis, la traversée.
Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes, des femmes. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer. Il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute, qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée.
C'est service public sur France Inter, les arnaques sur Internet. Et les arnaques sur Internet, bien souvent, ça commence par un mail. Un mail qui peut être libellé ainsi. Bonjour, vous dit un ami que vous connaissez bien sur sa propre boîte mail. Comment vas-tu? J'espère que je ne te dérange pas. J'ai sérieusement besoin de ton aide. Je suis en déplacement pour des raisons personnelles. Et là, je suis face à des difficultés telles que je ne saurais que faire sans ton aide. C'est vraiment délicat. Contacte-moi par email en toute discrétion dans l'attente urgente de te lire. Et la suite, Cédric Gourbeau, lorsqu'on répond à ce type de mail, encore une fois, d'une personne qu'on connaît très bien, que se passe-t-il?
Si vous répondez en disant « que se passe-t-il? Comment puis-je t'aider ?» Alors là, vous avez un rodéo d'emails qui commence à arriver, qui est parfaitement calibré. En général, lorsqu'ils vous envoient ça, c'est qu'ils ont eu accès à la boîte aux lettres de votre correspondant. Ils connaissent le nom de sa famille, de ses enfants, de sa femme. Et donc, vous avez des mails qui arrivent, qui sont tous plus cohérents les uns que les autres, où on vous dit, écoute, je suis désolé, j'ai dû partir en Afrique, j'ai laissé ma femme Françoise, les trois enfants sont avec elle, mais là, je suis coincé, on m'a volé tous mes papiers, envoie-moi un peu d'argent, le plus que tu peux, 500, 600, 700 euros, quoi que tu puisses envoyer, parce que je suis coincé, je ne peux plus rien faire. Et donc à partir de là, en général, on vous demande de l'envoyer via Western Union, dont on
retourne sur Western Union
et on retourne
Union.
Sur le process.
Et ça marche. Et ça fonctionne. Il y a beaucoup d'exemples. On utilise donc le nom de la personne lorsque vous recevez par exemple un email libellé comme suit. J'espère que tu vas bien. Je suis en déplacement et je me trouve dans une situation très compliquée. C'est votre ami avec son nom qui vous appelle et ensuite il vous demande de lui envoyer un mandat libellé. À son nom.
À son nom. Et là, on a un exemple dans les exemples que je vous ai donné, justement, d'une jeune fille qui a répondu à sa marraine. Elle a posé des questions à sa marraine en lui disant « Mais comment s'appelle ton mari ?» parce qu'elle avait quelques doutes. Et le mail est revenu avec le nom du mari, le nom des enfants. Enfin, à un moment donné, on se dit « Non, ça doit être vrai. Surtout, n'en parle pas à tes parents, n'en parle pas à mon mari, je veux pas savoir, je ne veux pas qu'il sache que je me suis fait avoir, etc. »
Nous avons Bernard qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Bernard.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Bernard.
Oui, alors moi aussi, mais des cas de... Moi, je suis dans un village enclavé, donc on utilise beaucoup avec mon épouse Internet pour faire des achats. Donc des cas d'arnaque, j'en ai des dizaines. Je pourrais vous en raconter des dizaines. Mais celle qui m'a le plus choqué, je vous passe les détails sur la partie, en fait, comment ils ont pu récupérer mes coordonnées bancaires et pouvoir faire des commandes à ma place. Mais moi, c'est ma banque qui m'a alerté, que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont été vraiment très réactifs. Ils me téléphonent, ils me disent « Monsieur, il y a des mouvements suspects sur votre compte en banque, vérifiez. » Donc j'ai foncé sur mon ordinateur, j'ai été voir mon compte en banque, effectivement, il y avait des achats que je n'avais pas fait. Et l'avantage de ces relevés de banque, c'est qu'en fait, il y a le destinataire en fait de la somme d'argent chez qui ça a été acheté. J'ai contacté aussi SEC, en les retrouvant sur Internet, les magasins où la personne avait fait des commandes par Internet. À qui j'ai expliqué mon cas, qui m'ont dit aussitôt « Bon, écoutez, effectivement, ça sent l'arnaque, nous on annule toutes les commandes et on vous rembourse. » Je lui ai dit « Est-ce que je peux avoir les coordonnées de la livraison pour essayer de choper les mecs ?»
Ils n'ont pas le droit.
Et là, il m'a dit « Non, nous on n'a pas le droit, ça ne peut passer que par votre banque et il faut que vous alliez porter plainte à la gendarmerie, ensuite vous allez avec votre papier à la banque. » Donc je fonce à la gendarmerie, je vais à la gendarmerie, je suis reçu par une charmante gendarmette qui m'explique qu'en fait, en dessous de 5000 euros, ils ne font rien. Et que, vous remplissez ce papier, vous allez à votre banque, et comme vous avez une carte Gold, de toute façon, tout vous sera remboursé. Et moi, je suis tombé par terre, parce que vous volez une pomme sur un étalage, vous mangez de la prison ferme, et là, ils avaient la possibilité de choper les mecs, et ils m'ont dit, en dessous de 5000 euros, on fait rien.
Capitaine Béguin, qui est en ligne avec nous. Capitaine Béguin, vous suivez ces affaires puisque vous êtes chef du département investigation Internet du service central de renseignement criminel. Pourquoi ne fait-on rien lorsque l'arnaque porte sur moins de 5000 euros? Est-ce vrai d'abord?
Alors, pas tout le temps, mais comme tout à l'heure vous l'aviez indiqué, c'est la problématique, c'est la politique au niveau justice, de pas entamer de procédure lorsque les arnaques engendrent une somme considérée comme dérisoire.
Et donc,
après,
dans ces
effectivement, 5 000 euros, là, je ne connais pas les tenants aboutissants, donc je ne pourrais pas répondre.
C'est pas une somme
plus,
tout à fait dérisoire.
Tout à fait.
C'est une 4L, vous savez, capitaine.
Voilà. Non, c'est plus de 4L maintenant, ça n'existe pas.
Non, mais je veux dire, ça coûte une 4L, c'est à peu près 5 000 euros de collection,
près.
Enfin, voilà.
Mais effectivement, après, le souci, c'est qu'il y a une politique mise en œuvre au niveau des départements ou des régions, et la politique mise en œuvre, la politique pénale, c'est au niveau de la justice, donc c'est le procureur. Maintenant, je ne sais pas du tout dans quelle zone géographique ça se situe et je ne connais pas les tenants et aboutissants. Donc là, j'ai un peu de mal à répondre au monsieur.
Nous avons Jean-Paul qui nous appelle de Meaux. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour à tous.
Nous vous écoutons,
écoutez,
Jean-Paul.
Voilà, moi je rebondis juste sur le témoignage qui a été fait avant, sur les mails piratés, les mails d'amis. Ça m'est arrivé aussi. Et j'ai posé en fait une question assez discriminante. Mmh. À l'ami, donc je lui ai demandé le nom d'un projet sur lequel on avait travaillé tous les deux. Et j'attends évidemment toujours la réponse. Voilà.
Donc on peut trouver des questions auxquelles ils n'ont pas la réponse, évidemment.
Voilà. Tout à fait.
Et donc vous avez décidé, évidemment, de ne pas donner suite.
Voilà, c'est ça. Et puis une heure après, j'ai eu un appel de l'ami en question, donc qui m'a confirmé que sa boîte avait été piratée. Voilà.
Merci Jean-Paul pour ces témoignages. Le problème, évidemment, lorsqu'on se penche sur les arnaques sur Internet, Camilla Parisot, c'est que les techniques évoluent sans cesse. Oui. Les entreprises se font également avoir avec des arnaques dites arnaques du président. Michelin a été récemment délesté de quelques millions d'euros pour s'être fait avoir. Comment s'y prend-on ?
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le PDG de la société va appeler quelqu'un au service comptable, alors d'une façon très confidentielle, lui demandant... Enfin, il y a tout un scénario fabuleux. Et puis, à ce moment-là, il y a des virements bancaires qui vont être faits. C'est-à-dire que la société, donc le PDG ou le directeur financier, va demander à ce qu'il y ait un virement de fait de tant de millions d'euros ou autre. Et voilà, ça part. Et le temps que la société s'en aperçoit... L'argent est parti.
En général, on va faire
comme
ça.
Quoi, tout le monde peut être victime.
En général, ils vont faire ça plutôt en fin de semaine, voire en fin de mois. Et il y a deux types. On est sur un projet vraiment sensible, donc il faut vraiment faire le virement maintenant, parce que sinon, l'acquisition risque de ne pas se faire. Ou alors, le bail vers la personne qui est détenteur du bail. Les coordonnées du RIB ont changé, donc merci de changer le RIB et de verser l'argent à telle banque.
Et puisque vous parlez de bail, les arnaques immobilières, là aussi, sont en pleine croissance. On voit de plus en plus de fausses annonces de location saisonnière ou location résidentielle. Et là, Cédric Gourbeau, c'est toujours très difficile de savoir si on a affaire à un arnaqueur ou pas, tout simplement parce que rien ne ressemble plus à un studio à la montagne qu'un faux studio à la montagne.
Alors, il y a d'une part les arnaques de location pour les vacances, mais aussi de location pour des appartements normaux. Et comme il y a de plus en plus de demandes et de moins en moins d'habitations disponibles, souvent les arnaqueurs demandent d'envoyer un acompte pour être sûr que la personne est de bonne foi et afin qu'elle autorise ensuite, elle se déplace pour faire visiter le bien. Donc, n'envoyez pas d'argent si vous n'avez pas rencontré la personne, ça c'est le préambule de base dont nous avons déjà parlé tout à l'heure pour des achats de biens. Et puis pour les vacances, il faut vérifier, revérifier, prendre son temps, passer des coups de fil. Et c'est un peu un chemin du combattant pour vérifier qu'on ne se fasse pas arnaquer.
Et vérifier que le studio montagne est effectivement un studio en chair et en os.
Alors comme toujours, ces arnaqueurs, une escroquerie ne va pas sans une autre. Et là, grâce à la location, ils font une usurpation d'identité très souvent. Parce que les gens, pour louer quelque chose, on va leur demander d'envoyer tous leurs documents. Et à partir de là, ils vont avoir absolument tout, c'est-à-dire au niveau des papiers d'identité. Donc il y a une usurpation d'identité qui est faite immédiate, totale. Et moi, j'ai des victimes qui aujourd'hui se sont retrouvées avec des prêts bancaires, avec des tas de choses qui leur sont arrivées à leur nom, de nouveaux comptes bancaires ouverts, sans pouvoir justifier de quoi que ce soit.
Capitaine Béguin, on voit que vous avez encore beaucoup de pain sur la planche.
Oui, il y en a beaucoup, mais on ne désespère pas. Nous sommes assez nombreux pour essayer de lutter contre ce genre d'escroquerie et on met tout en œuvre pour éviter la propagation. Et il y a des coopérations qui se font avec les pays desquels ces arnaqueurs officient. Donc on essaye de faire en sorte que ce genre de choses se réduisent dans les années à venir.
Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle le titre de votre livre, Cédric Gourbeau, Guide anti-arnaque, acheter et vendre en toute tranquillité sur Internet aux éditions Erol.